Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, quatrième partie de notre épisode consacré à l'histoire du football en Australie. On va voir dans celui-ci comment ce sport, autrefois uniquement pratiqué par des immigrés, a fini par rentrer dans la pratique courante, a fini par se professionnaliser. Et on retrouve, comme d'habitude, pour en parler avec nous, l'historien Romain Fati. Alors, on va avancer un peu dans le temps, même un peu beaucoup. On va faire un saut de presque 40 ans pour arriver à 2005. C'est une date importante parce que c'est le moment où il y a eu un grand bouleversement dans l'organisation du football en Australie. En gros, l'ancienne ligue de football dans laquelle on avait tous ces clubs de Croates, d'Italiens, de Polonais, etc., est dissoute et remplacée par ce qu'on connaît actuellement, la A-League, donc toujours avec des clubs... Bon, en tout cas sur le papier qui représente des villes, mais en tout cas qui sont plus rattachés à une communauté ethnique particulière. Est-ce que symboliquement, cette date et cette transformation de l'ancienne ligue en l'actuelle A-League, c'est le moment où le foot a arrêté de n'être qu'un sport d'immigrés en Australie?
Alors oui et non. C'est vrai que sur le plan, enfin sur l'analyse, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que pour le faire simple, au lieu d'avoir le club de foot des Corses, le club de foot de Bourguignon, le club de foot des Bretons, ce qu'ils ont essayé d'établir, c'est comme on connaît en Europe, des clubs non plus identitaires mais localisés. Ça va être Liverpool ou je sais pas moi Lens, Paris, enfin qui sont effectivement liés parfois à des identités locales et régionales, en avant de Guingamp par exemple, hein, bon voilà, mais où l'organisation va être autour des grandes villes australiennes de sorte à pouvoir ouvrir à un public plus large que le public communautaire exclusivement. En fait, la A-League et sa fondation fin 2004, début 2005, elle correspond aussi à une longue traversée du désert du football en Australie. Donc, la qualification en 74, il faut attendre plus de 2 décennies et demie avant d'être qualifié. Et c'est peut-être lié justement au fait de ces clubs qui sont essentiellement des clubs voilà de footballeurs italiens ou alors grecs ou polonais qui vont s'affronter les uns les autres, mais ça va pas créer des équipes de talents. Ces joueurs de nationalités différentes seraient mélangés. Et donc ça, c'est une des tentatives, c'est-à-dire que si vous avez un club qu'il y a une ville, la ville peut recruter les joueurs qui sont les meilleurs dans le coin et non plus avoir plein de petites équipes communautaires différentes. Donc de ce point de vue-là, vous avez totalement raison, c'est-à-dire que ça rebat les cartes, ça change les règles du jeu, et donc ce qui était un jeu de communauté de migrants devient maintenant un jeu qui est beaucoup plus institutionnalisé, avec une ligue nationale. Alors ça avait été tenté déjà à 2-3 reprises, ça n'avait pas trop marché justement du fait de cette implantation locale et souvent identitaire. Et là, ce qui se passe, c'est effectivement le développement du sport qui se repose toujours encore sur ces clubs aux identités fortes qui vont jouer les week-ends les uns contre les autres. Mais on va essayer d'avoir un club régional ou de la grande ville locale. Et ça rebat les cartes et ça encourage les talents. Et l'Australie revient sur le devant de la scène avec plusieurs qualifications pour des Coupes du Monde, les années 2000 et 2010. Donc c'est un changement qui à la fois fonctionné sur le plan footballistique, mais aussi qui permettait de donner une visibilité à une ligue qui est maintenant fédérée, et donc de lui donner des moyens aussi. Parce qu'en fait, quand vous êtes un sport avec un peu de plomb dans l'aile déjà, parce qu'on vous associe aux nouveaux arrivants, parce qu'on vous associe à un peu de violence sur le terrain, et que vous êtes en plus arrivé après, vous êtes face à des ligues de rugby, de cricket et surtout de footing qui ont des moyens absolument impressionnants. La fédération la plus riche en Australie, c'est le footy, de très loin. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez de l'argent? Bah, vous avez des transferts, mais vous avez aussi un pouvoir médiatique, un pouvoir d'avoir les meilleurs stades pour jouer dans les meilleures conditions, pour être télévisé. Et donc, cette fédération en A-League en 2004-2005, elle permet au football, enfin, au football en Australie, justement, de construire cette masse critique à la fois de joueurs, mais aussi de supporters et de prendre la coloration locale, quoi, si vous voulez.
Alors, vous avez, je pense, déjà en partie répondu à la question suivante, mais indirectement. Mais aujourd'hui, le foot, d'une certaine manière, a gagné, puisque c'est de très loin le sport le plus pratiqué en Australie chez les moins de 14 ans. Et même chez les adultes, en fait, c'est le sport en équipe le plus pratiqué, ce qui fait qu'on voit bah, que clairement il y a un intérêt et qui dépasse bah, l'allumer sa télé tous les 4 ans pour regarder la Coupe du Monde. Comment expliquer pourtant que c'est un sport bah, qui reste bah, moins populaire que le rugby, que le cricket et que surtout le foot australien? C'est juste une histoire de gros sous?
Alors, juste, probablement pas, mais je pense que c'est vraiment le facteur déterminant. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fait qu'il y ait à peu près 1 200 000 personnes en Australie qui jouent au football tel que nous l'entendons, c'est un chiffre effectivement très très important, hein. C'est une population quand même de 27 millions, donc c'est pas rien. Simplement, c'est pas la fédération qui contrôle les journaux, qui contrôle la télé et qui contrôle donc les pubs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que plus vous avez de puissance financière, plus les agents publicitaires, plus vous êtes regardé, donc les matchs de footy, plus les marques australiennes ou alors les marques qui veulent s'intégrer en Australie vont aller justement rechercher ces clients dans l'Australie traditionnelle, voire traditionaliste. Donc le sponsoring va se faire sur le cricket, va se faire sur le rugby, va se faire sur le footy, parce que c'est vu comme des sports bien de chez nous, plutôt que d'aller sponsoriser du football. Le sport, faut pas oublier que souvent c'est de la politique aussi, hein. Et donc, quand bien même vous avez énormément de joueurs, ça n'occupe pas la place de choix parce que dans le référent culturel australien, ça demeure, hein, malgré de grandes évolutions qu'on a pu mentionner, ça demeure un sport de nouveaux arrivants. On peut le voir de façon anecdotique. Moi, je travaille sur un campus, la NU, où il y a plein de terrains de sport sur le campus. La composition sociologique, physique des équipes que je vois jouer quand c'est du rugby ou du cricket n'est pas du tout la même que celle que je vois jouer qui joue au football. Ça va souvent être effectivement encore des nouveaux arrivants ou des Australiens qui aiment le football, mais vous allez voir des équipes beaucoup plus diverses, voilà, de façon tout à fait visible. Et c'est encore le cas parce que si vous arrivez, un Australien sur trois aujourd'hui est né à l'étranger et un Australien sur deux a un parent né à l'étranger. Donc, quand vous arrivez et que vous avez une vingtaine d'années et que vous êtes né ailleurs, vous avez jamais joué au footy. Vous n'avez jamais joué au rugby, sauf si vous êtes du monde britannique, encore que le rugby français est absolument excellent. Alors, jouer au cricket, bah, c'est pareil, à moins d'être du Pakistan, d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, bref, l'ancien Empire britannique, c'est pas un sport qui est joué partout. Donc, un des sports les plus pratiqués dans le monde, les plus universels, c'est le football. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un sport que vous pouvez jouer pour vous intégrer, pour rencontrer du monde, pour vous créer un réseau de socialisation. Parce que bah, si vous savez pas jouer au rugby ou si vous savez pas jouer, comment dirais-je, au cricket, bah, vos opportunités de socialiser et de vous créer un réseau sont beaucoup plus limitées.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour la dernière partie de notre épisode consacré à l'histoire du football en Australie. On verra dans celui-ci que la politique et le sport en général, mais et le football en particulier, ne sont jamais très éloignés. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.